Bonjour à tous. Je me réjouis que Roger soit enthousiaste pour lire les textes de ce matin. Qui c'est qui écoute de temps en temps la radio? Il y a beaucoup de personnes. Qui c'est qui écoute France Info? Ah, il y en a moins. Il y en a quelques-uns. Alors, il y a une émission, c'est très court, que j'aime beaucoup, c'est « Tout et son contraire ». Est-ce que quelqu'un les connaisse? Quelques-uns? Ça vous dit quelque chose? C'est Philippe Vandel, c'est un journaliste qui interviewe des personnalités. Il a une manière d'interviewer qui est très sympa, donc je vous encourage à le faire. Mais ça m'a inspiré aussi le thème de cette prédication, un peu particulier, c'est « Je ne voudrais pas être à sa place et son contraire ». C'est « Tout et son contraire ». En fait, c'est de manière assez solennelle, à Pâques de cette année, nous étions pour le culte de Vendredi Saint à l'église protestante de Troisnais, et j'ai été touché par un des passages, pourtant que j'ai entendu à plusieurs reprises, qui se trouve dans Matthieu 26, les versets 67 et 68. Je le lis. « Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing, d'autres le giflèrent en disant, « Christ, devine qui de nous t'a frappé ?» Et là, en écoutant ce texte, je me suis dit, mais c'est juste horrible. Ces soldats romains ne savaient pas qu'ils étaient en train de frapper le Fils de Dieu. Et je me suis dit, c'est vrai que je ne voudrais vraiment pas être à leur place. Et plus j'ai réfléchi, plus je me suis dit, dans la Bible, il y a plusieurs personnages pour lesquels je ne voudrais pas être du tout à leur place. Et pourtant, d'autres personnages m'inspirent beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et j'avais envie d'en faire un thème de prédication, un sujet un peu insolite. Donc je voudrais vous parler de certains personnages pour lesquels je ne voudrais pas être à leur place, et aussi leur contraire, mais c'est aussi des personnages, pas bibliques, mais des personnes chrétiennes qui ont vécu dans notre vie contemporaine. Pour traiter ce sujet, je vais vous partager trois textes bibliques. Un qu'on va reprendre aujourd'hui, et les deux prochains textes, je voudrais les reprendre dimanche prochain, parce que Roger, notre pasteur, m'a accordé deux cultes pour ce thème. Et le fil rouge qui va conduire aussi ce thème, un peu particulier, ce sera le judaïsme. Le judaïsme. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, mais qui me semble être important. J'avais envie de vous partager certaines choses sur le judaïsme, mais c'est au sens spirituel et au sens sociologique. Je tiens bien à préciser que je ne vais pas prendre position par rapport à un point de vue politique sur l'État d'Israël en tant que nation politique, mais je voudrais vraiment vous partager certaines choses sur le judaïsme, au sens, comme je l'ai dit, spirituel et sociologique. Pour ces trois textes, le premier se situe dans Jean 8, ensuite il y aura Matthieu 26 et Matthieu 27.
Jean 6, à partir du verset 3. Mais dès le matin, Jésus se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la place au milieu, et disent à Jésus, « Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. » Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ?» Personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur. Alors moi non plus, je ne te condamne pas. va et désormais ne pêche plus. Matthieu 26, à partir du verset 69. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu es avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde en déclarant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et lui dit à ceux qui étaient là, « Celui-là était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau en déclarant, « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Certainement, c'est l'un d'eux, à ton accent, révèle d'où tu viens. » Alors Pierre s'écria, « Alors que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme. » À ce même moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus avait dit avant. « Avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. » Il sortit et pleura amèrement. Un petit peu avant, dans le récit de Matthieu 26, puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles en disant, « Hé, devine, toi le Messie, dis-nous qui t'a frappé. » Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau rouge. Puis ils tressèrent une couronne avec des branches épineuses, la posèrent sur sa tête et placèrent un roseau dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur une croix.
Merci Roger. Donc ce matin, je voudrais qu'on puisse se concentrer sur le texte dans Jean. Chapitre 8, les versets 1 à 11, ce texte qu'on appelle communément le texte de la femme adultère. Mais ce matin, je voudrais le rebaptiser pour l'appeler les religieux hypocrites. En effet, je ne voudrais pas être à la place de ces religieux hypocrites qui ont surpris une femme adultère, en état d'adultère, et qui ont amené cette femme à Jésus dans le seul but de le piéger. C'est vrai que tout d'abord, j'ai pensé, surtout en tant qu'homme, je ne voudrais pas être à la place de cette femme adultère. Mais à tout prendre, j'aurais en effet préféré être l'un de ces pharisiens. Ils ont une position plus confortable, on pourrait dire. Mais à la fin de l'histoire, les rôles se sont plutôt inversés. Et leur position n'avait rien d'enviable. Pour rappel, qui sont les scribes et les pharisiens? Les scribes sont les maîtres de la loi, ceux qui étudient de manière systématique la loi de Moïse, et sont souvent cités en association avec les pharisiens. Pas toujours, mais dans les évangiles, souvent on parle des scribes et des pharisiens. C'est une profession, alors que les pharisiens, c'est un parti religieux. Le mot pharisien vient du mot hébraïque qui veut dire séparer. Le respect strict de la loi juive les forçait à se séparer, à être des juifs pieux, à être séparés de la majorité qui était assimilée au monde gréco-latin, et ceci pour des raisons tout à fait rituelles. Donc en soi, ce parti n'était pas mauvais. On pourrait même dire que c'était bon, c'était les plus zélés, les plus enthousiastes à faire respecter la loi. Mais de toute évidence, dans ce récit, on voit bien que les pharisiens et les scribes, ils ne sont pas là pour faire seulement respecter la loi, ils sont aussi là pour piéger Jésus. Jésus qui les a toujours dérangés. Et là, de nouveau, je me suis dit, je voudrais pas être à la place de ces scribes et de ces pharisiens qui ont voulu piéger Jésus, alors que, même humainement, on pourra dire que Jésus était bien plus malin qu'eux. Ça, c'est pour les scribes et les pharisiens. Pour la femme adultère, il est évident que c'est une proie facile et une victime toute désignée. La plupart des commentateurs retracent en parallèle ce texte avec certaines prescriptions qu'on retrouve dans Deutéronome 22, les versets 23 et 24, que je voudrais vous lire, et qui sont malheureusement un peu d'actualité avec ce qui se passe en Iran. 22, Deutéronome 22, les versets 23 et 24. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Le but de la loi de Moïse, c'était de purifier le peuple d'Israël. Mais dans ce texte, je reprends, donc si l'on retrouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte? Pardon? Exactement. Il manque un personnage clé, apparemment, c'est l'homme. Évidemment, c'était plus facile de prendre juste la femme, de l'amener à Jésus, que sa femme était plus vulnérable, que d'amener les deux personnes. Le but donc de la lapidation était d'ôter le mal. C'était un signe de pureté, un consigne de pureté, mais on sait à présent que ça ne sert absolument à rien. On ne peut pas ôter le mal à coup de pierre, à coup de lapidation, mais le mal a été enlevé avec la seule manière, c'est que Jésus a été lapidé pour nous, pour le péché de l'humanité. En ce qui concerne Jésus, le piège est à la fois politique et religieux. Et on va le tester. Est-ce qu'il va défendre la loi de Moïse ou est-ce qu'il va défendre l'autorité romaine qui refusait de telles pratiques? Il doit choisir Jésus, les religieux ou la loi Moïse. Est-ce qu'il va défendre le nationalisme juif ou plutôt l'impérialisme romain? Et à la demande qu'il est faite, il répond par une question absolument humainement, absolument géniale. Cette pirouette extraordinaire qui est rentrée même dans le vocabulaire commun, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je suis sûr que tout le monde la connaît, même les non-chrétiens, probablement ils ne savent pas d'où vient ce texte. Mais c'est extraordinaire. Pour nous, on l'a déjà entendu, mais c'est extraordinaire de se remettre à la place de ces gens qui ont voulu piéger Jésus, et voilà qu'est-ce qu'il répond. Et c'est aussi extraordinaire, c'est les mouvements, les gestes de Jésus. C'est dommage que le type n'ait pas marché, mais on voit aussi la puissance symbolique de Jésus. Il traçait avec ses doigts sur le sable. Ces scribes qui veulent prendre les pierres du sol pour lapider cette femme, Jésus revient sur ce sol, là où il y a les pierres, il trace sur le sol pour pardonner. Les mouvements du corps de Jésus sont aussi extraordinaires. Tout d'abord, il est assis pour enseigner. Il se met au même niveau que la foule. Il est assis. Ensuite, il se baisse. Ensuite, il se redresse. Il s'incline de nouveau et il se redresse finalement. Il y a vraiment les mouvements du corps de Jésus qui sont d'une extrême importance. Donc, assis, il enseigne la foule. Ensuite, il se baisse et il trace sur le sol. Et il regarde par terre. Il ne veut ni regarder la femme adultère, ni regarder ses accusateurs. Comme pour les laisser mijoter, qu'ils réfléchissent aussi, qu'ils prennent conscience. Ensuite, il se redresse et il regarde ses accusateurs. Et il dit justement cette fameuse phrase, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il se lève comme pour signifier une sentence légale. Ensuite, il s'incline de nouveau, pour les laisser les temps, justement, qu'ils réfléchissent. Et finalement, ils se redressent. Pas pour regarder ses accusateurs, parce que un à un, ils sont partis. Il va regarder la femme adultère, celle qui était présentée pour être accusée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui invite à changer de vie, à ne plus pécher dans ce domaine. Et là, je me dis, je préférerais être à la place de cette femme adultère qui est pardonnée, plutôt qu'être à la place de ces religieux qui connaissaient beaucoup la loi, mais qui n'ont pas su reconnaître le Messie. Mais à nouveau, aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, ni la femme adultère n'est pas meilleure que ces scribes et ces pharisiens. Tous sont pécheurs. On est tous sur le même plan. À la différence près, c'est l'orgueil. Les scribes et les pharisiens étaient orgueilleux, alors que la femme adultère était prête à se repentir, à changer. Donc pour nous chrétiens, c'est la même chose. Faisons attention à ne pas être que des conformistes par rapport à la parole de Dieu. C'est vrai que c'est important et c'est un équilibre à avoir. Mais soyons autant animés par la miséricorde que par la vérité biblique. C'est quelque chose qui est important, mais difficile sur des plans éthiques, sur des questions éthiques. Et son contraire. Je ne voudrais pas être à leur place. Et son contraire. La plupart des Juifs de l'époque de Jésus n'ont pas reconnu Jésus comme Messie. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu? Évidemment, il y en a certains qui l'ont reconnu, et les plus célèbres, c'est les disciples. C'est Pierre, comme on l'a lu. C'est aussi l'apôtre Paul, évidemment. Mais on peut s'étonner pourquoi il n'y a pas eu plus de Juifs qui se sont convertis. Et même les siècles qui ont passé, il y a eu beaucoup plus de païens, beaucoup plus d'autres personnes, d'autres religions qui se sont converties que les Juifs. Il suffit d'aller dans une librairie évangélique et chercher les témoignages de Juifs qui se sont convertis. Et bien, vous trouverez beaucoup plus d'autres personnes qui se sont converties, des drogués, des ex-X ou Y, beaucoup plus de musulmans qui semblent être attirés par le Messie, et malheureusement peu de Juifs. Mais ce matin, je voudrais vous partager le témoignage d'un juif qui a reconnu Jésus comme son Messie. Certains le connaissent peut-être, enfin on l'a déjà lu, puis c'est un témoignage des années 70. Ce personnage s'appelle Arthur Katz. C'est un Américain qui a publié son journal intime de 1953 à 1970. Et pour ceux qui aiment un petit peu ces récits, et d'autant plus par rapport à un juif, je vous encourage à le lire. Ce livre qui s'appelle Ben Israël. Il nous plonge dans l'univers d'un juif américain, c'est vraiment un intellectuel, qui est marqué par un judaïsme culturel, un athéisme existentiel et aussi par un militantisme marxiste. Vraiment, c'est un bon mélange. Il est également influencé par le psychanalyste Jung, qui lui a ouvert les yeux aussi sur le besoin spirituel de l'homme. Et l'ouvrage, il commence par la visite d'un camp de concentration à Dachau, près de Munich. Nous sommes en 1953, Arthur Katz a 34 ans, et il débute un grand voyage initiatique à la recherche de la lumière et du sens à sa vie. Il est marié depuis 7 ans à une Allemande qu'il a rencontrée durant son service militaire en tant que soldat américain sur le sol allemand. Il est né à New York et il a fait ses études brillantes dans deux des meilleures universités nord-américaines pour devenir historien puis enseignant. Son mariage, comme je vous l'ai dit, c'est un fiasco. Et il est aussi là pour trouver un sens à sa vie durant tout son voyage qu'il va faire pendant à peu près 9 mois. Malheureusement, en parallèle, le divorce sera prononcé. Et il choisit son voyage, il commence son voyage en Allemagne et il va le terminer en Israël. Et entre deux, il va faire plus d'une dizaine de pays, surtout en Europe. Évidemment, le fait qu'il ait choisi l'Allemagne et Israël n'est pas le fruit du hasard. Évidemment, l'Allemagne, c'est le pays de son épouse. Mais aussi l'Allemagne est le pays qui a vu une des pires atrocités de l'histoire de l'humanité avec le génocide de millions de Juifs dans les camps de concentration qu'on appelle justement la Shoah. Il va donc se rendre à un camp de concentration qui est à Dachau, près de Munich. Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont déjà visité un camp de concentration? Certains. Moi, j'ai eu, je peux dire, la chance, en guillemets, de visiter justement ce camp de concentration. Lors du voyage d'études, nous étions allés à Munich. C'est un professeur de géographie qui aimait beaucoup l'Allemagne, qui nous a amenés là-bas. Et moi, ça ne me disait pas grand-chose. L'Allemagne, je ne suis pas spécialement attiré, mais on a fait une visite culturelle intéressante à Munich, dont la visite du camp de concentration de Dachau. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment un avant et un après quand on fait cette visite. C'est absolument bouleversant. Et on se pose beaucoup de questions. Et je peux bien imaginer qu'un juif qui va visiter un camp de concentration, un juif actuel, il doit se poser encore plus de questions. Et c'est frappant, je voudrais simplement vous lire un petit passage sur les questions justement de cet auteur. Où était le Dieu du grand pardon en ce jour de Yom Kippour? Pourquoi son oreille s'est-elle fermée aux cris et aux prières de ces innocents, privés de tout secours et massacrés comme des bêtes? Mon estomac se retourne et mes yeux sont obscurcis par les larmes. Je voudrais les venger, pris d'une rage subite, mais je suis paralysé, glacé d'effroi. Et il faut avoir ce contexte pour comprendre ce qu'un juif, croyant ou pas, peut ressentir par rapport aux nations dites chrétiennes. Il faut bien le dire, le silence, voire l'approbation même de l'Église chrétienne, c'est-à-dire l'Église catholique, mais aussi l'Église protestante, l'Église luthérienne d'ailleurs, a suscité vis-à-vis des juifs une grande méfiance vis-à-vis du message de l'Évangile. Sans parler de longs siècles de persécution menés par les élites chrétiennes, rongées par la haine de ce peuple qu'ils ont jugé coupable de la mort de Jésus. Il faut donc garder à l'esprit ce contexte. Quand vous parlez à des amis juifs, vous avez certainement des amis juifs ou des connaissances juives, et moi je suis toujours un peu embarrassé de parler de ma foi vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont tellement près du but, et pourtant ils ne sont pas tout près du but. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Mais nous devons avoir ce contexte pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les aimer, pour mieux communiquer cet évangile de la rédemption du Messie. Et cet homme nous livre tout au long de son ouvrage sa soif de vérité, avec beaucoup de franchise. Il est torturé, secoué, envahi par une quête existentielle, et il va parcourir en moins d'une année, comme je vous ai dit, une dizaine de pays. Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais il y a beaucoup de personnes, nos voisins, nos collègues de travail, qui sont aussi torturés par une quête existentielle. Mais parce que nous avons trouvé un sens à notre vie, on oublie que c'est des gens qui peuvent vivre comme ça. Ça peut expliquer pourquoi des gens suppriment leur vie, tellement qu'ils sont désespérés. J'entendais encore des personnes, cinq personnes à Orange et France Télécom qui se sont suicidées tout récemment. C'est vrai qu'ils doivent certainement vivre des conditions terribles de travail, mais ils ont aussi une absence de sens à leur vie. Et pour des chrétiens, peut-être parce que nous avons eu la chance de découvrir l'Évangile, petits, enfants, adolescents, on oublie qu'il y a des millions et des millions de personnes qui n'ont pas de sens à leur vie. Et qui vivent le soir, ils se réveillent au milieu de la nuit en se disant « Mais à quoi ça sert cette vie ?» On ne doit pas oublier de les rejoindre, ces gens. Et durant tout son voyage vers Turcas, il va être confronté à l'amour de Dieu. Il y aura des messagers de Dieu qui vont intervenir dans sa vie de manière extraordinaire. Et en lisant ce livre, ça m'a fait tellement penser au témoignage de Roger, Sewell, qui nous a partagé il y a une année exactement, son témoignage en Inde, au Sri Lanka, où il y avait des chrétiens qui sont intervenus dans sa vie. Et c'est vrai que quand on lit ces témoignages, comme Roger nous l'a dit, on peut avoir des doutes par rapport à notre vie chrétienne, mais quand il y a des témoignages si extraordinaires, qu'on se rappelle justement de ce que Dieu a fait dans notre vie, on peut simplement se dire, je ne doute plus, Dieu existe, Dieu est vivant. Et c'est important de se le rappeler. Et dans pratiquement chaque pays, Dieu va intervenir dans sa vie, par des hommes et des femmes, mais aussi par des événements tout à fait extraordinaires, par des choses. Je voudrais juste vous donner cet exemple. À Madrid, dans le célèbre musée Prado, il va dire, parce qu'il y a évidemment, il voit plein de tableaux avec Jésus, alors il dit, Jésus est l'inspiration ici. Jésus est en route pour le calvaire. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus montant au ciel. Je ne comprends pas le pouvoir de ce thème. Comment est-il possible que les extravagances d'un charpentier visionnaire, parce que c'est ça en réalité, et le credo d'une religieuse païenne inspirent un tel déchaînement de louanges et de beauté? Il faut être honnête, et je dois admettre que cette pensée me trouble et m'a poursuivi durant toute la nuit. Et il va visiter aussi la Suisse. Et la Suisse n'est pas en reste. Le récit fait pas ça, faire référence à ses arrêts, à Locarno, à Berne, et nous rappelle la belle hospitalité suisse. Je voudrais juste citer, Helmut et Anna pensent qu'il est normal de demander à un inconnu de venir passer la nuit chez eux. C'est notre témoignage chrétien, a dit Helmut avec un grand sourire. À Zurich, il va rencontrer une dame qui va lui dire simplement, Dieu est amour, je sais qu'il existe, il vit en moi, etc., etc. Cela doit aussi nous encourager à se dire aussi, nous pouvons être un petit chaînon dans ce témoignage. d'une personne qui va se convertir. Certainement que les personnes qui ont rencontré Roger en Inde ou au Sri Lanka n'ont pas su que leur témoignage a porté du fruit et qu'il est maintenant à la tête de la plus belle église au monde, à Mérin. Tu es d'accord, Roger? Donc ce doit nous encourager à être des témoins de l'Évangile, des témoins spontanés, pas toujours préparer les choses qu'on va dire à nos collègues de travail, on prépare ça 6 mois à l'avance. Non, on doit être des témoins spontanés. Il y a une ouverture. Eh bien, on parle, on les aime, on leur parle de Dieu, de Jésus. Et un passage que je trouve extraordinaire, il va commenter le passage justement de la femme adultère. C'est un peu long, mais enfin pas trop long, je vous rassure, mais je voudrais vraiment vous le lire parce que je trouve ce passage extraordinaire. En fait, il est sur un bateau, en allant en Grèce, et il rencontre un autre juif, Timorman, qui a un Nouveau Testament dans sa poche, il l'a jamais lu, et il lui donne justement à Arthur IV parce qu'il sait qu'il est intéressé par l'Évangile. Et il commence de cette manière. Quand j'arrive, donc il lit le Nouveau Testament et il dit « Quand j'arrive à l'épisode de la femme adultère dans Jean 8, mon cœur se mit à battre plus vite. Je revivais vraiment ce moment dramatique. Là se représenta un cas net où le jugement était facile à rendre. La loi disait que la femme devait être lapidée. Cependant, Jésus avait enseigné le pardon. Jésus était pris au piège. Je sentais l'indicible soulagement de ceux qui l'entouraient, l'ayant fait tomber dans leur embuscade en le coinçant dans une situation très compliquée. Qu'allait-il répondre ? Je fermais le livre. Je ne voulais pas que mon nouveau héros soit détruit, ni sa virilité, ni son humanité, son discernement, son courage, sa profonde compréhension de la vie, ses compassions et son amour pour ceux qui étaient foulés à terre. Mon cœur palpitait, mes mains étaient moites. J'imaginais les Juifs entourer Jésus, leurs yeux brillants de haine et de jalousie, la bave coulant sur leur menton, se réjouissant déjà de l'avoir mis au pied du mur. En plus, quand c'est un Juif qui raconte ça, c'est encore plus percutant. Comme cela était symbolique, pensais-je, de la situation humaine au moment où la vérité affronte l'égoïsme. Que dirais-je si j'étais à la place de Jésus? Je me torturais les ménages, épuisant toutes mes ressources de logique et de raison. Et finalement, j'ai dû admettre qu'il n'y avait pas de réponse. M'attendant au pire, je rouvris le livre et continuai ma lecture. Je découvris Jésus se penchant sur le sol et écrivant sur son doigt dans le sable. « Comme il me ressemble, pensais-je, il cherche à gagner du temps. » Puis, il leva les yeux. Son regard croisa celui de ses adversaires. Je pouvais voir dans leur visage décomposé, face à son attitude paisible, son expression pure et résolue. « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » J'en eus le souffle coupé. Une épée traversa mon être tout entier. J'étais sidéré, troublé et enthousiasmé par cette réponse absolument parfaite. Elle défiait l'imagination et le raisonnement. Elle tranchait toutes les questions, même les plus difficiles, même celles qui avaient obsédé toute ma vie. Ces paroles entrèrent dans mon cœur pour s'y graver. Une fois calmé, je restais stupéfait, réalisant que je savais maintenant que Dieu existait, que Dieu était vivant. Finalement, il débarque en Israël. Et de manière paradoxale, il va rencontrer le Messie en Israël, alors qu'il a vécu, il a visité beaucoup de nations dites chrétiennes. Mais comme je vous l'ai dit, c'était ponctué de témoins de l'Évangile. Et à nouveau, vu que sa vie était truffée de miracles, il va rencontrer Jésus d'une manière aussi miraculeuse. C'est donc à Jérusalem. Hier jeudi, j'ai pris l'autobus à l'université hébraïque. J'avais déjà maintes fois utilisé cette ligne, mais pour une raison inexplicable, je montais dans un mauvais bus. Peu de temps après, cherchant à m'orienter, je réalisais que je ne savais absolument pas où j'étais et je descendis du bus pour me renseigner. J'entrais dans une petite librairie, la première boutique que je vis, et je m'enfermai auprès de la vendeuse. Elle me répondit en anglais, m'expliquant comment trouver le bus qui me ramènerait en territoire connu. Au moment où j'allais sortir, mes yeux tombèrent sur des livres, des Bibles, des commentaires bibliques, des Nouveaux Testaments. Très surpris, je me retournai et je servais la femme qui avait l'air bien juive, qui se tenait là. « Mais qu'est-ce que c'est, cette librairie ?» Elle me fit un air sourire et répondit, « Nous sommes une communauté de juifs qui croyons en Jésus le Messie. »
je suis tout à coup avec certitude que je ne devais pas partir de cet endroit. Enfin, un endroit où je trouverais les réponses à toutes mes questions. Je me tournai vers la jeune femme et lui ouvris mon cœur, comme si un barrage s'était rompu, donnant libre cours à toutes mes questions. Je ne savais pas qu'il existait des juifs messianiques. Je croyais que j'étais le seul juif dans le monde entier qui se sentait attiré par Jésus. Mais ici, je découvrais un groupe de croyants juifs, et qu'on disait qu'il y avait beaucoup d'autres juifs dans le monde ayant fait les mêmes expériences que moi, la même recherche, et ils avaient tous acquis la conviction que Christ était vraiment le Messie. Finalement, il se convertit et il s'est vraiment consacré à l'annonce de l'Évangile. Arthur Katz est décédé il n'y a pas longtemps, en 2007, alors qu'il a vécu pendant toute cette période une vie vraiment consacrée à transmettre l'Évangile auprès de ses contemporains et spécialement ses frères juifs. Voilà en ce qui concerne ce premier passage sur le thème de la femme adultère ou des religieux hypocrites. La semaine prochaine, je voudrais vous partager ce thème justement sur le reniement de Jésus et aussi sur la croix de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.